Thomas Jusquiam, vous êtes aujourd'hui à Fort Calquier, invité par la Carline, pour présenter votre dernier ouvrage, Circuler, la ville sous surveillance. En quelques mots, qu'est-ce que l'ouvrage ? C'est un ouvrage d'enquête ?
Oui, c'est ça, c'est un ouvrage d'enquête. Tu me posais la question de savoir comment est-ce que j'étais arrivé à faire cette enquête. En fait, initialement, je travaillais dans le secteur de la sécurité informatique et des infrastructures. Et je me suis ensuite tourné vers le journalisme il y a quelques années en me spécialisant sur le domaine sécuritaire. C'est ce qui m'a notamment permis de faire l'immersion dans une entreprise qui fait de la vidéosurveillance algorithmique. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le fait de brancher des logiciels derrière des caméras pour analyser le comportement des gens dans la rue, et ça repose sur de l'intelligence artificielle, enfin plus précisément une de ses branches qui s'appelle la vision par ordinateur, qui analyse les pixels d'un flux vidéo pour en extraire un certain nombre de données, notamment le comportement des gens. Donc c'est un peu ce passé-là qui m'a permis de rentrer dans cette société.
Et donc vous avez été en immersion plusieurs mois dans une société pour observer la façon dont était développer, commercialiser ce logiciel. Vous faisiez des salons, donc vous aviez les arguments de vente. Déjà, comment vous avez vécu cette expérience ?
C'était pas un saut dans le vide pour moi, parce que c'était un environnement que je connaissais, dans la mesure où j'avais déjà travaillé dans ce type d'environnement, c'est-à-dire une entreprise avec une structure commerciale, avec un argumentaire de vente, avec de la vente, en fait, tout simplement. Donc non, ça a été assez naturel, on va dire, pour moi. Maintenant, ce qui pouvait être un peu étrange, c'est que on ne peut pas toujours dire aux gens avec qui on s'entend bien pourquoi on est là. Donc ça nous oblige à avoir une attitude qui n'est pas forcément la plus naturelle possible non plus. Moi, je crois être un petit peu avenant, de nature assez avenant, donc il fallait que je sois un petit peu plus froid, par exemple, pour pas trop créer d'intimité, on va dire. Mais sinon, non, c'était un environnement assez connu pour moi. Et oui, pour répondre à ta question, on allait sur des salons. C'est là, notamment, il y avait un salon qui était dédié au maire, dans lequel on devait vendre le logiciel. C'est peut-être intéressant de dire qu'il y a deux façons de vendre ce logiciel dans les villes. Le premier, c'est qu'il y a un versant très sécuritaire de ces logiciels, très répressif, pour faire de la vidéo-verbalisation, pour détecter les attroupements, pour détecter les gens qui font du maraudage, c'est-à-dire qui traînent trop longtemps dans une zone. Pour être plus précis, en fait, le logiciel, il va détecter l'objet humain dans son flux vidéo. Ensuite, dans le logiciel, on va pouvoir déterminer une temporalité, 3 minutes par exemple. Après, quand ces conditions sont réunies, il y a une alerte en temps réel qui est remontée dans ce qu'on appelle des centres de supervision urbains, qui sont ces lieux qui centralisent les caméras de vidéosurveillance de la ville. Et donc, il y a un opérateur qui va pouvoir visionner ce qui se passe. Ce que je disais, c'est qu'il y a des analyses qui sont très sécuritaires, et d'autres qui ont un versant un peu plus, que moi j'appelle Smart City. Donc Smart City, c'est une meilleure gestion des ressources de la ville. Et donc là, typiquement, c'est des analyses qui vont connaître le nombre de voitures, le nombre de camions, le nombre de vélos pour éventuellement faire des réaménagements. Ça va se connecter au feu rouge quand il y a des bouchons pour les faire passer au vert. Enfin, des choses qui me paraissent assez utiles de mon point de vue, mais qui pouvaient attirer en tout cas. Donc il y a un peu ces deux versants, sécuritaire et Smart City. Et en fonction de l'élu, qui était plutôt à gauche ou plutôt vert, on avait des discours plus Smart City, et quand c'était des mairies à droite et toutes ces nuances, on était sur du sécuritaire.
C'est vrai que les Smart Cities nous emmènent en fait dans le monde des objets connectés, et le gros débat sur cette question, quelle liberté individuelle nous sommes prêts en tant que citoyens, citoyennes à lâcher en échange de confort, fluidité. Un exemple tout bête, sur un bâtiment de salle de réunion, si ça se connecte à l'agenda, ça peut juste allumer le chauffage une demi-heure avant que la réunion commence parce que c'est connecté à l'agenda, puis l'éteindre après automatiquement. Un des arguments des technophiles au niveau de l'écologie, c'est de dire que ces smart cities, ces objets connectés qui consomment très peu au fond, seraient une solution pour la crise climatique.
Oui, alors moi je pense que c'est complètement un mirage parce que en fait, c'est des équipements qui sont au contraire très consommateurs, parce que si on regarde l'infrastructure qui est nécessaire derrière pour connecter ces tout petits capteurs, derrière c'est des infrastructures cloud, donc des serveurs, des bases de données, des data centers. Il y a toute une chaîne en fait d'équipements extrêmement énergivores, mais c'est peut-être pas ça, je pense, le point le plus intéressant, c'est que en tout cas concernant la vidéosurveillance algorithmique qui se positionne sur des sujets d'économie des ressources. en réalité, par exemple, le comptage, par exemple, des véhicules que la vidéosurveillance algorithmique permet, bah, en fait, il existe déjà une solution qui le fait, c'est les boucles magnétiques, c'est des deux petites barres en silicone que les gens ont peut-être déjà vues et qui comptent les véhicules. Alors, c'est pas aussi précis que la vidéosurveillance algorithmique, ça c'est certain, mais ça suffit pour donner une tendance et savoir si on a besoin de faire tels aménagements parce qu'il y a tant de vélos qui passent ou tant de voitures. Donc en fait, pour moi, c'est des innovations qui sont superflues dans la mesure où chacune des analyses, finalement, de la vidéosurveillance algorithmique, il y a déjà quelque chose qui existe. Peut-être que sur la surveillance, il y a un saut quantitatif qui s'opère, ça c'est certain. On peut détecter des situations de maraudage sur 200 caméras en même temps, donc ça va être possible. Une meilleure consommation des villes, et je pense que c'est au contraire plus problématique parce que l'IA consomme énormément et les capteurs qui sont nécessaires et l'infrastructure qui sous-tend ces capteurs est extrêmement énergivore.
Pierre, qui est libraire à Karine et qui vous reçoit ce soir, nous a très intelligemment présenté le livre et c'est intéressant de voir que c'est une personne qui ne connaît pas les questions informatiques et donc que votre livre est très clair et en termes de vulgarisation, qu'il explique très bien. Une des choses dont Pierre nous a parlé, c'est le fait qu'effectivement, être immobile dans la ville, c'est un problème, d'où le titre circulé. Et donc là, il y a une approche urbanistique, sociétale. Les personnes sans abri, ça pose problème. Les manifestations, ça pose problème aux pouvoirs publics. Les caméras sont une solution pour les pouvoirs publics.
Oui, c'est un peu... En fait, bon, moi, voilà, je vis proche de Paris. Donc, bon, c'est la ville par excellence capitaliste, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de flux de personnes, de marchandises qui circulent. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'exemple typique, c'est les aéroports ou les gares ou les infrastructures qui accueillent du public et ses alentours. J'étudie notamment l'infrastructure et l'urbanisme autour du Stade de France. C'est des zones qui deviennent désertes, en fait, parce que l'absence de bancs, par exemple, qui est une technique urbanistique pour fluidifier les flux, eh bien, ça empêche l'appropriation de l'espace public parce qu'on ne peut plus s'y installer. Mais il y a plein d'autres techniques comme ça qui... un urbanisme qui permet de gérer les flux. Bon, il y a effectivement les gens qui vivent dans la rue, les marginaux, donc les vendeurs à la sauvette, les prostituées, les toxicomanes, les migrants, tous ces gens qui prennent l'espace public comme un lieu de ressources et donc qui peuvent stagner. Il y a une analyse dans la vidéosurveillance algorithmique qui s'appelle le maraudage, qui est fait pour détecter ces comportements. Donc ce dont on se rend compte à la fois avec les techniques d'urbanisme, mais aussi avec ce que peut détecter la vidéosurveillance algorithmique, c'est qu'il y a une injonction au mouvement. Et ça, on le retrouve dans ces deux cas.
Et du coup, comment vous avez eu ce regard plus critique, plus axé sciences humaines, si vous venez plus du monde informatique?
En fait, le livre, il part de la lecture d'un texte qui a été écrit par un jeune architecte qui s'appelle Paul de Marliave et qui décrit en fait les dispositifs urbanistiques et architecturaux qui sont déployés dans la ville pour éviter certains comportements que lui va définir comme non consommatoires ou à faible légitimité. Donc typiquement, voilà, la liste que j'ai donnée tout à l'heure, les migrants, enfin les personnes précaires ou marginalisées. Et en fait, il y a tout un domaine là-dedans qui s'appelle notamment la prévention situationnelle. La prévention situationnelle, c'est un ensemble de théories et de pratiques qui part du principe que l'espace peut créer du crime ou de la délinquance et non finalement les questions sociales. Par exemple, expliquer pourquoi il y a de la violence dans certains quartiers, la prévention situationnelle, elle s'occupe pas de savoir qu'il y a un accès à l'emploi qui est plus difficile dans ces zones-là, que les gens sont mis à l'écart des centres-villes. Toutes ces questions de sociologie sont écartées, donc je suis forcément allé un peu sur ce côté-là parce que je trouvais ça un peu intellectuellement pauvre de vouloir régler des problèmes sociétaux comme la délinquance ou le crime en modifiant l'espace. C'est comme ça que je me suis un peu intéressé à cette prévention situationnelle et du coup il y a plein de pratiques, plein de techniques qui consistent à ça. Et pour résumer, la prévention situationnelle, c'est qu'il y a toujours, elle part du principe qu'il y a toujours une cible potentielle, donc une vieille dame avec un sac à main par exemple, un délinquant déterminé et un manque de dissuasion. Et la prévention situationnelle, elle vient agir sur ce manque de dissuasion. Et typiquement, la caméra fait partie des techniques technologiques de la prévention situationnelle, mais il y a aussi de l'architecture et de l'urbanisme.
Mais du coup, sur la prévention situationnelle, en fait, ce qu'on disait avec Pierre, donc le libraire l'autre fois, c'est aussi qu'il y a l'aspect que c'est pas du tout efficace. Je crois que par rapport au fait d'installer des caméras, c'est une forme de pansement pour les pouvoirs publics, pour détourner le problème ou le résoudre en apparence. Et Pierre donnait l'exemple, mais je pense que c'est ton exemple, de si on met une caméra devant un point de deal, le point de deal, il bouge de 300 mètres. Et donc, il disparaît pas, quoi.
Ouais,
c'est ce qu'on appelle l'effet plumeau. C'est-à-dire que effectivement, bah, quand des caméras sont installées, si elles peuvent pas être décrochées, cassées ou pétées, bah, tout simplement le point de deal se déplace. Mais plus globalement, la vidéosurveillance classique, donc celle qui n'a pas de logiciel d'intelligence artificielle derrière, qui a été déployée pour la première fois en 1991 à Levallois-Perret par Patrick Balkany. Depuis son implantation en France et même dans les autres pays, il y a des méta-analyses de chercheurs étrangers qui ont convergé vers les mêmes résultats. La vidéosurveillance classique ne permet pas de réduire ou de faire baisser la criminalité ou les crimes violents. Ça ne marche pas. Et ça, c'est pas que des chercheurs français qui l'ont montré, c'est des méta-analyses. Mais plus récemment, il y a le chercheur Guillaume Gormand qui a analysé 1939 cas dans la région de Grenoble, des cas d'enquête, et il a voulu vérifier si la vidéosurveillance était utilisée pour la résolution d'enquête. Et bah, il se trouve que ça a donné 1,17% des cas où c'était utilisé, donc autant vous dire pas grand-chose. Donc, sauf que la caméra continue à se déployer depuis 1991, il y a même l'État qui finance allègrement l'installation des caméras au travers de son fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIDP, qui l'année dernière c'était 82 ou 83 millions, c'était 2 millions de plus que l'année précédente. La caméra continue à être déployée sur l'idée qu'elle permettrait de réduire la criminalité, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Il faut quand même préciser peut-être une chose, c'est que sur les méta-analyses, on a quand même identifié qu'il y avait quelques cas où ça fonctionnait. On a vu que les vols de voitures baissaient dans les parkings quand un système de vidéosurveillance était installé, et dans certaines zones résidentielles. Mais donc, l'idée selon laquelle la caméra permettrait de réduire le crime, c'est une illusion totale. Et la vidéosurveillance algorithmique, cette fois-ci, pardon, les raisons pour lesquelles la caméra ne fonctionne pas, c'est, il y en a plusieurs, hein. Il y a vraiment plein de raisons. Il y a des problèmes de masquage, c'est-à-dire des fois on installe des caméras en hiver et au printemps les feuilles poussent et du coup on s'est obstrué, les caméras deviennent vieillissantes, il y a de la poussière, elles sont mal orientées, des fois les enregistrements fonctionnent pas, enfin plein de problèmes d'ordre technique. Mais l'argument principal, qui est d'ailleurs celui utilisé par les industriels, c'est de dire bah on a installé trop de caméras, pas assez d'yeux pour les surveiller, parce qu'il faut bien des opérateurs de vidéoprotection pour les regarder. Bah, parfait, ça donne une voie royale pour la vidéosurveillance algorithmique, pour dire bah maintenant c'est une IA qui va pouvoir détecter certaines situations. Voilà un peu comment la caméra classique à l'époque s'est déployée sur une illusion. De mon point de vue, la vidéosurveillance algorithmique fait un petit peu pareil. On n'a pas de résultats probants sur des baisses de la criminalité.
Et du coup, pour qu'on s'obstine, pourquoi il y a cette mode d'installer des caméras, d'aller vers de la reconnaissance d'image? Et du coup, en fait, ça définit un modèle de société qui n'est pas souhaitable pour les libertés individuelles. Je suppose que c'est ça le sujet de fond, non ?
T'as deux questions. La première, c'est pourquoi ça continue à être déployé ? Parce que je pense qu'il y a toujours cette croyance comme quoi ça aide à... Après, il y a un effet dissuasif. Hein. Je veux dire, il y a des chercheurs qui ont démontré ce qu'on appelle le chilling effect, qui veut que quand on se sait surveiller, on s'auto-censure. Donc ça, bon, il y a des études qui commencent à être un peu sérieuses sur la question, donc il y a un effet dissuasif, on pourrait prendre cette raison-là. La seconde, je pense que oui, il y a cette croyance comme quoi ça va aussi rassurer les administrés, donc le maire, quelque part, dans une logique électoraliste, il va faire ce qu'on appelle l'effet ruban, c'est-à-dire inaugurer un nouveau système de vidéoprotection pour dire qu'il agit au niveau de la sécurité, et donc pour rassurer une certaine partie de la population, parce que le rapport à la sécurité, c'est important de le dire, il est différent en fonction des gens, de l'âge, du sexe, de la zone où on vit, mais aussi des événements traumatiques qui nous sont arrivés dans notre vie. Il y a une chercheuse, Renée Zobermann, qui s'est intéressée à cette question, et elle montre que le rapport aux besoins sécuritaires est lié aux expériences d'insécurité ou de violence que vous avez vous-même vécues. Donc c'est un sujet assez complexe, mais bon, voilà, elle est déployée en tout cas pour ces raisons-là, toujours sur cette croyance, et sur les libertés fondamentale, donc la liberté d'aller et venir, le droit à la vie privée, clairement la vidéosurveillance algorithmique s'attaque directement à tout ça. C'est un sujet qui est assez compliqué parce qu'il y a encore des flous juridiques qui sont présents. Il y a une loi qui a été votée, la loi du 19 mai 2023 en rapport au JO 2024, qui est venue encadrer l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Donc j'ai dit le 19 mai 2023, il faut savoir que la vidéosurveillance algorithmique, elle est déployée depuis 8 ans à peu près, en toute illégalité. Parce que ça s'attaque directement à des droits fondamentaux. Et aujourd'hui, les acteurs de la vidéosurveillance algorithmique disent qu'on ne fait pas de reconnaissance faciale, donc ils seraient donc en phase en adéquation avec le RGPD, sauf que l'analyse par exemple de la quadrature du net, hein, une analyse juridique hein, très, très sérieuse, explique que les données biométriques, c'est pas que forcément une photo prise de votre passeport reliée à un système de vidéosurveillance. Le fait d'analyser les mouvements de notre corps, de savoir si on court, si on marche, si on est assis, c'est considéré comme des données corporelles et donc qui rentrent dans la catégorie des données biométriques. Donc c'est en ça, je voulais dire, qu'il y avait un flou et une bataille entre les pros VSA pour vidéosurveillance algorithmique et les anti-VSA. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la loi du 19 mai 2023 n'autorise que 8 cas d'usage. Alors, je les ai plus en tête, mais je peux en donner quelques-uns. C'est détecter un colis abandonné, quelqu'un qui va en sens inverse, quelqu'un qui rentre dans une zone interdite. Voilà, il y a 8 cas. Il faut savoir une chose, c'est que la vidéosurveillance algorithmique, elle fait bien plus. Et qu'en plus, je finis là-dessus, le journaliste Clément Le Foll a démontré dans le journal d'investigation Disclose, a démontré que le ministère de l'Intérieur utilisait depuis 2015 ou 2016 le logiciel israélien Briefcam et qu'il pratiquait de la reconnaissance faciale depuis des années en toute interdiction avant la loi, et même la loi du 19 mai n'autorise pas la reco faciale, donc il y a des usages sauvages, illégaux de la part du ministère de l'Intérieur depuis des années.
Le fait qu'il y ait une opacité aussi bien sur la vente de ces caméras et sur il n'y a aucun fichier au ministère qui a le suivi de toutes les caméras présentes en France, il me semble. Et après, il y a ce problème qui est que le juridique est toujours sur un temps long, très très long. À l'inverse, les technologies sont sur un temps très 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 rapide. Pour revenir, le RGPD, donc promulgué en 2018, un règlement européen sur la protection des données, qui était quand même relativement ambitieux sur le papier, qui offrait des garanties aux citoyens et aussi des possibilités de mettre des amendes en fonction du chiffre d'affaires. Ça, c'était une grande nouveauté. Enfin, il est presque déjà périmé, en fait. Notamment sur la question du biométrique, peut-être. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont les voies d'espoir pour vous? Est-ce que votre ouvrage est donc un acte militant?
Le livre, il part aussi d'un constat que moi j'ai vécu à titre personnel, qui était des manifestations, notamment celle des Gilets jaunes, dans lequel on a vu l'État, dans lequel on a vu s'abattre une violence d'État, extrêmement grave, quoi. Enfin, des éborgnés, des morts, des personnes qui ont perdu leurs mains, et donc cette violence, enfin ce virage autoritaire m'a extrêmement inquiété. Donc effectivement. Moi, je considère que la sécurité dans nos vies, elle doit se discuter entre nous. Les questions de sécurité, elles ne sont pas discutées au niveau du peuple. Je veux dire, c'est fait par la voie parlementaire, évidemment, par les représentants. Mais est-ce qu'on discute réellement de notre sécurité au quotidien? Moi, j'en ai pas l'impression. Ce qu'on voit apparaître, c'est des acteurs économiques. C'est surtout ça dont il faut parler. C'est que c'est aussi une histoire de sous, cette histoire. Il y a des fleurons industriels de la sécurité en France qui poussent pour déployer leurs logiciels. Donc, il y a des logiques économiques là-dedans qui sont très fortes. D'ailleurs, les JO vont être un tremplin important pour ces entreprises pour se développer à l'international. Ça va créer de l'emploi, du produit intérieur brut, du PIB. Donc il y a des enjeux économiques. Mais pour répondre à ta question, je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'être conscient de ce que font ces systèmes de sécurité. La première, en les connaissant, en sachant ce qu'ils font, c'est déjà une façon de ne pas fantasmer leur toute-puissance. La vidéosurveillance, algorithmique ou non, n'empêche pas les militants d'agir, n'empêche pas les gens d'aller en manifestation. Il ne faut pas non plus en avoir peur et imaginer qu'il y a une toute puissance derrière les caméras. On l'a vu avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure sur la résolution des crimes, bon, même si ça concerne les crimes et que c'est un peu différent. Mais, donc ça, c'est un premier aspect. Puis surtout, je pense que chacun au niveau local peut se renseigner auprès de sa mairie, parce que si les gens, certains ont besoin de sécurité, d'autres moins, mais ce qui est certain, c'est que les gens aiment bien savoir où vont leur argent. Il faut savoir qu'une caméra, le chercheur Tanguy Le Goff a estimé que le prix d'une caméra, du coût d'installation d'une caméra, en moyenne, c'est 20 000 euros. Si on corrèle ça au fait qu'il n'y ait aucune efficacité vis-à-vis de la résolution des crimes, ça fait quand même très cher pour pas beaucoup d'efficacité. Donc la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas réfléchir au niveau local, dans les mairies, aller demander pourquoi un système de vidéosurveillance a été installé ou pourquoi il y a un projet d'installation, et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec cet argent-là pour peut-être résoudre certains problèmes sociaux. Je pense qu'investir dans le social ou dans l'hôpital ou dans des structures sociales serait peut-être un moyen de résoudre des problèmes sociétaux plus d'une manière plus intéressante qu'en investissant dans des systèmes de vidéosurveillance extrêmement chers. Bon, après, voilà, il y a d'autres gens qui prônent le sabotage, c'est évidemment pas ce que je peux dire, mais voilà, il y a plein de façons de faire.
Et justement, pour faire l'avocat du diable, il n'y a pas un peu l'aspect psychologique? Un maire va dire en visée électorale, on va vous mettre en sécurité, on va mettre des caméras. On contre ça par les chiffres, mais comment le biais psychologique?
Oui, je pense que c'est un énorme sujet, la sécurité. C'est, je pense qu'il n'y a que en discutant ensemble. Enfin, je veux dire, moi, je discute avec ma mère de 77 ans. Je lui demande si elle se sent en insécurité dans sa ville. Elle n'a pas les mêmes raisons d'avoir peur dans la ville que moi, qui ai 35 ans, qui suis un homme blanc. Ça, je pense que commencer par se poser la question de la sécurité qu'on veut dans notre espace. Et puis, je pense que, enfin, moi, ça, je vais donner un avis très personnel, mais je pense qu'il y a, on commence à avoir peur de tout. On mathématise la ville en travaillant là-dessus sur les smart cities, la safe city. On a l'impression qu'on fait rentrer la ville dans un tableau Excel et que on analyse. Tous les risques aussi, il faudrait qu'il nous arrive rien, mais jusqu'à empêcher la rencontre avec l'inconnu. Et donc l'espace public devient un lieu de circulation dans lequel les mélanges ne sont même plus possibles. Moi, à titre personnel, les seuls moments où on peut se mélanger entre des personnes qui viennent pas du milieu, c'est des mêmes milieux, c'est les manifestations. Sinon, bah, les bars sont marqués sociologiquement, les riches vont dans des bars de riches, les pauvres vont dans des bars de prolos, si je schématise. Donc il n'y a plus ces lieux de rencontre. Et donc je sais que ça donne pas beaucoup de clés ce que je dis. Je pense qu'il y a une façon aussi de penser la ville qui doit être peut-être avec une prise de risque peut-être un peu plus importante. Ça peut paraître incroyable dans ce monde-là où on est tous, on a tous peur de tout, on a peur pour nos enfants, on a peur pour nous-mêmes, mais je pense que se dire qu'on pourrait encaisser aussi quelques risques, quitte à... Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être une nouvelle façon de voir la ville en se disant qu'il faut peut-être prendre un peu plus de risques qu'avant parce que ça peut donner de belles choses. C'est surtout ça l'idée, quoi.
C'est à connecter à l'aseptisation de nos sociétés, en fait. Enfin, avec les génisses, les poubelles, les égouts. Et en fait, aujourd'hui, on est tous allergiques à tout parce que notre système immunitaire est plus en contact avec rien. Donc en fait là c'est la même chose.
Oui, alors je connais un peu moins ce sujet, mais c'est l'exemple typique qui peut essayer de représenter ce que j'essaye de dire, c'est les gated communities. Alors gated communities, c'est des résidences fermées, plus connues, enfin une des plus connues en France, c'est celle de la Villa Montmorency parce qu'il y a beaucoup de stars qui vivent là-bas, Xavier Niel, Afflelou, machin. C'est un entre-soi rassurant, mais t'as pas besoin d'avoir forcément un truc d'ultra riche. Ça peut être des catégories sociales, juste une petite bourgeoisie, une haute bourgeoisie qui se sent rassurée. Dans son milieu. Oui, moi je pense que ce mélange des classes sociales dans l'espace public, il est nécessaire pour tendre vers une société peut-être plus égalitaire. Pour moi, il n'y a rien de bon à rester dans un entre-soi idéologique. Ça ne fait que créer finalement des peurs de l'autre parce qu'on s'en éloigne, il devient de plus en plus étranger et on a l'impression que nos intérêts divergent en tout point alors que bah, l'exemple de la manifestation, j'y reviens, montre qu'il y a des ponts et des points communs possibles et réels. Et effectivement, j'acquiesce sur le terme que tu as utilisé d'aseptisation, c'est un terme que j'utilise. Et ce terme-là, je l'utilise notamment pour... Je fais un parallèle avec les aéroports. En fait, pendant mon enquête, je suis allé dans un aéroport et je me suis rendu compte qu'il y avait le même système d'organisation sécuritaire dans les grands événements au cœur des villes. Donc j'ai étudié notamment le G7 à Biarritz, le 14 juillet à Paris, et le jour de l'an à Paris, et on stérilise en fait tout l'espace, c'est-à-dire qu'on va enlever les voitures, on va fermer les stations de métro, on va enlever les terrasses, enfin tout le mobilier de terrasse, on va contrôler les corps, on va fouiller les bagages, on va organiser les flux, et cette organisation-là, qu'on retrouve dans les aéroports, et ben en fait on la retrouve au cœur des villes pour les grands événements. Et donc il y a un glissement de la sécurisation d'un espace comme celui de l'aéroport qu'on voit glisser dans l'organisation des grands événements. Je dis pas que c'est au quotidien dans la ville, mais en tout cas sur les grands événements, mais au cœur des villes. Et effectivement, ma crainte, c'est qu'il y ait une forme de banalisation de ces dispositifs, parce que en fait, en général, ces dispositifs, ils restent. C'est ce qu'on appelle l'héritage, pardon. L'exemple typique, c'est la vidéosurveillance algorithmique. Tout le monde sait qu'elle va rester, alors que c'était vendu comme une expérimentation.
On va peut-être conclure. Je vous laisse redonner les références de l'ouvrage. Si vous voulez donner d'autres références vers des collectifs militants, des choses comme ça.
Oui, donc le livre, c'est « Circuler, vie sous surveillance ». Moi, je collabore avec le site reflet.info sur lequel j'ai démarré une série sur le domaine sécuritaire pour comprendre les enjeux économiques, pour ceux que ça intéresse. Mais globalement, reflet.info traite pas mal des questions de sécurité. J'écris aussi dans Lundi Matin, très bonne adresse à qui je recommande la consultation.